Bonjour, bienvenue sur Annie Musique, c'est Jean David pour un nouveau numéro des Bulles dans la tête, le dernier de l'année. Ben oui, l'année passe très très vite. Et aujourd'hui, au programme de ce nouveau et dernier numéro de l'année, on va parler fantômes. Fantômes et encore fantômes. À l'occasion de la dernière exposition de l'année, je vous rassure, de Art Ludique, une exposition qui est consacrée aux fantômes depuis le 11 décembre jusqu'au 29 décembre. Alors vraiment, il faut se dépêcher. À mes côtés, j'ai bien sûr Diane. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bienvenue encore sur Annie Musique. Je suis très contente de te retrouver. Tu sais que je t'aime. Hein. Il ne faut pas que ton mari écoute l'interview. Sinon, hein. Je ne vais plus pouvoir. Voilà. Et avec Diane, nous sommes en compagnie des deux illustrateurs d'un très bel ouvrage qui vient de sortir chez Glénat, l'épouvantable encyclopédie des fantômes. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Avant qu'on parle ensemble, j'avais seulement une petite question à poser à Diane. En cette fin d'année, les fantômes chez Art Ludique, c'est un peu particulier, non ?
Oui, c'était pour changer du Père Noël en fait. C'était pour montrer que les fantômes ont une importance pendant ces périodes de fête et que l'univers justement, même pendant, enfin, on a tous connu Scrooge, hein, ça vient de là, et Scrooge a quand même réussi à enfin à profiter de Noël et à faire partager sa fortune aux autres et à retrouver le bonheur grâce à plusieurs rencontres avec certains fantômes. Donc je trouvais que la rencontre des fantômes au moment de Noël était intéressante.
Avant d'entendre Karine M, alors je dis Karine M, hein, parce
Karine
que
M, oui.
Voilà, et Eliane Blackmorte, alors ça doit être des noms de scènes, j'allais dire.
Pas tout à fait.
Ah d'accord, on va en parler parce que Blackmorte, c'est très fantôme, je trouve. dans le travail, ce travail t'a plu ?
Qu'est-ce qui m'a fait
Qu'est-ce qui t'a décidé
d'exposer Ian et Karine ? En fait, on se connaissait déjà depuis un petit bout de temps. Moi, j'aimais beaucoup l'univers d'Ian et Karine avant même qu'ils travaillent sur l'épouvantable encyclopédie des fantômes chez Glénat. Et j'aimais tout leur univers sur les maudits, les dragons, Karine avec son univers sur les boudoirs. Voilà, ils ont deux univers complètement différents. Si, différents artistiquement parlant. Et en même temps, ils arrivent à travailler ensemble. Ils ont une fusion artistique complètement, je dirais, hors norme. Ça va d'ailleurs en plus avec les fantômes. Hein, c'est spirituel. Et c'est ce qui me plaisait chez eux. En tout cas, dans ce livre-là, j'aimais aussi qu'ils se rencontrent tous les deux dans un seul et même livre. Parce que bon, il y avait des choses qu'ils faisaient, on sentait qu'il y avait des influences d'eux, mais là enfin, il y avait aussi leur travail à tous les deux, leur vie, l'univers artistique. Ce sont deux créateurs d'univers et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans cette encyclopédie.
Alors, quand en tout cas, on feuillette cette encyclopédie, on se dit que le mélange est super beau. Et vraiment très très beau. C'est un très très bel ouvrage, mais on en reviendra un peu plus tout à l'heure. Alors, bonjour, rebonjour Karine M et rebonjour Eliane Blackmorte. Blackmore. Oui, pas morte,
Blackmore.
C'est aussi autre chose, oui. Je suis déjà possédé. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que d'abord, pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter tous les deux? Qui commence?
Je vais commencer. Donc, Karine M, je dessine, enfin, si on peut présenter comme ça, depuis toute petite, bien sûr. Et après, j'ai développé plus le graphisme, des illustrations aussi, mais plus le graphisme dans mes études supérieures. Et les livres, on les fait avec Elian, on est tombé dedans. Enfin, on avait commencé différents trucs avant, mais le premier livre qui a été édité est depuis 2005.
Donc, pas la première collaboration entre vous deux?
Non, par contre, on travaille ensemble depuis 93, donc depuis un moment, on travaille ensemble pour des grosses marques de publicité qui ont besoin de mélanger des illustrations et le graphisme, comme le groupe Masterfood, Mars, Adidas, les M&M's,
que des marques,
Lolita Olympica,
que des marques.
Oui, oui, c'est ceux qui sont friands d'images fortes, ouais.
On a fait nos armes effectivement sur on va dire là pour parler plus hors livre sur le marketing opérationnel qui était vraiment une spécificité en com de l'image d'un événement et d'une période en fait. Donc c'est vrai que Mars, Adidas, enfin, toutes ces marques-là s'y prêtaient très très bien et c'est là où on a commencé en Alsace tous les deux à travailler pour ces marques-là. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours un petit peu tiré Karine par le côté en lui disant « Ouais, j'aimerais bien faire de la BD. » J'ai toujours tourné autour de la BD et de l'image, l'illustration, du jeu vidéo. Et du coup, on est arrivé jusqu'en 2005 à faire notre premier ouvrage illustré avec une petite maison d'édition bretonne qui nous avait fait confiance à cette époque-là et qui éditait déjà des très très beaux livres avec deux auteurs qu'on peut citer parce que c'est des amis, j'aime bien les citer. C'était Jean-Baptiste Mange qui maintenant travaille pour des studios au Canada et Pascal Moguerou qui travaille actuellement, je crois, au Lombard. Et c'est un peu eux qui nous ont... Karine m'a dit, mais si, regarde, c'est bien ce qu'ils font au bord des continents. Ils avaient fait un livre sur Halloween et... Déjà Halloween,
ah oui, déjà en
1995, je crois. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a démarré sur le premier projet des Dragons. Et comme dit Diane, effectivement, jusqu'à présent, on a toujours travaillé. On avait nos univers distincts. Et comme un studio, l'un aidait l'autre. C'est-à-dire, quand moi, j'ai travaillé sur les Dragons et les Maudits, enfin les Blackmore Chronicles actuellement chez Glénat, Karine s'est mise à mon service en tant que directrice artistique, en tant qu'illustratrice aussi. Mais c'était plutôt mon univers qu'on travaillait, qu'on dégageait. Et Karine à tel point qu'on allait encore plus loin parce que Karine a écrit les maudits, notre dernier ouvrage, avant les fantômes. Et quand Karine a fait son guide de Sarah Survivre en compagnie des monstres, c'est moi pour le coup qui me suis mis à son service, qui suis devenu sa petite main pour l'accompagner, participer à son travail, la rassurer, l'influencer un petit peu sur certains points spécifiques.
Certains points spécifiques que j'oublie vite, moi.
Et Karine dit, Karine est plus dans le boudoir farfelu et moi je ramène un petit peu, on va dire, les trucs,
Plus érudit.
Voilà.
Alors, Diane expose, donc, je le disais tout à l'heure, des illustrations tirées de l'épouvantable encyclopédie des fantômes. Comment êtes-vous arrivé à illustrer une encyclopédie sur les fantômes? On se dit, il y a des encyclopédies, d'accord, partout de tout, mais sur les fantômes, quand même, c'est... En plus, qui sort à Noël, c'est d'abord peu courant. Et comment êtes-vous arrivé sur ce projet?
Ouais.
Alors après, ça a démarré toujours pareil. L'histoire remonte exactement à cette période de 2005. On a côtoyé JB et Pascal. Effectivement, on croisait Pierre Dubois, qui était pour nous, comme pour pas mal de monde, un érudit sur le sujet sur les sujets du petit peuple, de la féerie, des lutins et tout ce qu'il avait déjà abordé. On croisait Pierre fréquemment dans des salons et tout. On échangeait. Et puis c'est vrai qu'un jour, on s'est retrouvés tous les deux avec Pierre. Les légendes, il y a 2 ans, je crois. Et effectivement, avec Pierre, on est parti dans la soirée à parler. Pierre, sa volonté de vouloir faire autre chose, effectivement, que l'écriture du petit peuple, dont il avait bien fait le tour, quand même. Et nous, on s'était toujours dit qu'effectivement, une personne comme ça, travailler pour une érudition pareille, c'était vraiment quelque chose qui nous ferait carrément rêver, quoi, et qui nous permettrait justement de se concentrer que sur l'objet image et rassembler, comme dit Diane, nos deux univers en fait dans un seul objet. Et on s'est recroisé avec Pierre m'a offert Les Comptines Assassines et Les Contes de Crime, qui sont 2 romans qu'il a fait chez Folio. Et quand j'ai vu ça, effectivement, je laisse Karine pour la suite pour le moment. D'accord, donc on arrête cet épisode. Et effectivement, j'ai...
Pour l'anecdote, quand il a lu ça, le lendemain qu'on est revenu trouver les légendes, je crois, en sortant de la douche, il était tout excité. Et il m'a dit, on va lui proposer un livre sur les fantômes. Et je crois qu'il a dit tout de suite une épouvantable encyclopédie des fantômes, je crois. Enfin, je ne mettrai pas ma main au feu, mais presque. Et donc il a sauté sur le téléphone et il a appelé Pierre et Pierre il adorait l'idée d'épouvantable en fait. Ce qu'il a fait partir tout de suite, Pierre, c'est cette idée là, l'épouvantable encyclopédie des fantômes. Ah oui, tout de suite.
L'épouvantable quand on fait l'encyclopédie, elle est pas aussi épouvantable que ça. On va revenir tout à l'heure sur le terme d'épouvantable. Qu'est-ce qu'un fantôme? Est-ce que c'est ce que tout à chacun connaît et pense d'un fantôme, ou qu'est-ce qu'un véritablement un fantôme? Parce qu'il y a plusieurs catégories de fantômes quand même. Alors, le terme générique, qu'est-ce qu'un fantôme?
Un non-vivant, on peut dire déjà. Un non-vivant qui vit à côté de nous, et déjà ça en fait. Mais c'est vrai qu'il peut être différent sous différentes formes. Ça peut être juste un crâne qui va suivre une personne, ça peut être... visuellement quelqu'un qui va nous ressembler, et peut-être qu'il va être juste un petit peu plus flou qu'on va entreapercevoir. Ça peut être une main coupée, tout simplement, ou un personnage avec un drap peut-être plus classique au départ, comme un suaire et un squelette à l'intérieur qui fait du vélo, par exemple.
Ça peut être un parfum, ça peut être un objet, ça peut être c'est souvent quelque chose qui a encore quelque chose à faire, ou qui a encore quelque chose à partager, ou encore quelqu'un à aider, comme je regarde le premier fantôme que Pierre nous a décrit. Je crois qu'il nous a fait c'est vraiment ce qui nous a fait complètement partir dans son ouvrage, c'est qu'au début, quand Pierre me dit, mais si, on va démarrer à l'âge de la préhistoire, là, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va nous emmener? Et effectivement, quand j'ai lu la première fois le texte sur le premier fantôme, et que Pierre nous a raconté qu'effectivement, à l'époque de la préhistoire, la tribu marchait, traversait les steppes, la neige, un adulte de la tribu mourait, il tombait. C'était normal, il mourait. Mais par contre, quand un enfant est mort avant l'adulte, là, quelque part, on a pris conscience, effectivement, de la notion de fantôme et de choses qui n'étaient pas normales. Le premier fantôme est mort, mais finalement, il n'est pas parti parce qu'en fait, il était aussi là pour rassurer sa mère avec le petit rapport au petit collier d'os. La mère qui la voyait, qui lui a fait un doux sourire et après, elle est partie. Donc, je trouvais que c'était vraiment une très, très belle introduction sur la notion de fantôme et de quelqu'un qui est encore là, finalement, pour aider les vivants. Plutôt que pour faire peur, tout simplement, il a accompagné peut-être, comme le décrit Pierre, il a accompagné sa mère jusqu'au dernier moment et après il est parti.
Justement, est-ce que à travers les âges, et est-ce que l'exposition est organisée comme ça, il y a eu une évolution dans les fantômes, dans la perception qu'on a des fantômes et peut-être dans, pour votre travail d'illustrateur, dans l'illustration?
Waouh. parce que là il nous manque l'érudit à côté, il nous manque la troisième tête. C'est vrai que c'est un ouvrage qui est vraiment fait à six mains. Je pense que le fantôme, c'est l'iconographie du fantôme, elle a évolué avec le temps, avec la littérature et l'écriture et le cinéma. Il évolue avec nos sociétés. J'ai un peu plus de Mathieu Bob.
C'était rigolo, justement, sur un interview qu'on a lu, on nous a dit qu'on n'avait pas illustré les fantômes comme le fantôme de...
Tu parlais de Pac-Man ?
De Pac-Man, oui. J'en ai mis un petit qui ressemble exprès, qui fait boue à la fin, mais... Je pense qu'il y a des films où aussi ils avaient travaillé là-dessus, sur des personnages, même des illustrations différentes, un peu comme on a fait.
Comment avez-vous travaillé ces différents fantômes? Parce qu'il y a différents fantômes, est-ce que vous avez choisi un design différent ou sensiblement différent pour illustrer chaque fantôme, parce qu'il y a plusieurs grandes familles, entre guillemets, de fantômes. Comment et quelles ont été vos références?
Voilà, pour les fantômes, en fait, avec Elian, pour illustrer, c'était très difficile de se dire qu'est-ce qu'on va illustrer, parce que même si le texte de Pierre est très imagé, déjà, il est copieux, et pour extraire l'idée, en fait, si on collait tel que au texte, peut-être une BD, on serait peut-être été bloqué, puis c'est pas ce qu'on voulait. Donc en fait, sur les ghosteries, on s'est dit, on va extraire le portrait du fantôme, comme si c'était un peintre qui faisait son portrait, mais même un petit peu imaginaire, ou plutôt le portrait intérieur de la personne plutôt que le portrait réel, avec exactement sa coupe de cheveux ou ses rondeurs telles que, mais sur l'essence même, donc comme pour Héloïse, en fait, qui est sur son cheval, plutôt son caractère, en fait, parce qu'on la voit deux fois. On la voit, en fait, Héloïse, la version méchante ou sévère, on va dire.
Pas très joyeuse.
Et on la voit à l'intérieur aussi devant son château, comme elle aurait pu être si tout s'était bien passé, et si les humains avaient réussi à vivre avec elle, en fait. Et donc c'est ça qu'on a illustré, on a appelé ça des tableaux, en fait. C'est des tableaux fantômes de l'image du fantôme, de l'esprit, en fait.
Est-ce que vous avez eu des modèles de vivants pour réaliser ces tableaux de fantômes?
Non, on n'avait pas de modèle vivant, mais par exemple, Héloïse, c'est un bon exemple. C'est vrai que Pierre décrit qu'effectivement, le stade où vraiment Héloïse a commencé pratiquement à être fantôme alors qu'elle n'était pas fantôme, elle était encore vivante, c'est après un accident de cheval. Donc, tout a démarré là-dessus. Le tableau qu'on a illustré n'est pas du tout un tableau du livre, mais effectivement, il y a la notion, c'est son cheval qui a provoqué, et d'ailleurs son côté hautain sur son cheval, puisqu'elle est tombée de cheval et qu'elle est devenue invalide. Et du coup, elle a pourri la vie à tout le monde. C'était en gros l'histoire d'Héloïse. C'est là où elle a commencé finalement à se rapprocher du côté même des revenants et des spectres plus que du fantôme, ce que Pierre nous expliquera ça bien plus tard. Et c'est vrai que moi, j'avais la notion du cheval m'intéressait, le rideau. Et là, pour ce tableau-là, en l'occurrence, avec mon aspiration, était vraiment le tableau de Fuseli, qui est un tableau assez... J'espère que je ne me plante pas sur le point, mais si, c'est Fuseli, qui a illustré le cauchemar de Fuseli. Donc on voit une femme allongée et cette tête de cheval un petit peu... aux yeux vides, un peu mort, qui sort du rideau. Et c'est vrai que dans ma tête, j'ai toujours fait des associations étranges entre ce qu'écrivait Pierre et ce que je connaissais et ce que j'aimais.
Même t'as imaginé des scènes, ça c'est rigolo, qui n'étaient pas dans le livre en fait, tellement on était immergé.
Bah, c'est vrai que Pierre, effectivement, étant un grand spécialiste du petit peuple et de la féerie, a fait ce que j'ai trouvé génial, effectivement, une partie sur les fées et les fantômes, qui sont pour lui, effectivement, un monde identique, fées, fantômes.
Et c'est assez étonnant, c'est un point que je voulais aborder, c'est assez étonnant de mettre des fées, parce que les fées, on a plutôt l'impression, on a tous la notion de fées, baguettes magiques, machin et tout. Et les fantômes, c'est quand même assez étonnant.
C'est ce qui s'est passé sur l'image, c'est qu'effectivement, j'étais persuadé, j'avais lu les textes de Pierre, parce qu'on les lisait par paquets, et j'étais persuadé que Pierre avait décrit cette scène où effectivement, le roi des morts, donc le roi des fantômes, était entouré de la cour des fées. J'ai illustré. Au début, non, j'ai fait l'esquisse. J'en ai parlé à Pierre, il me dit non, je t'ai pas écrit ça, mais il me dit mais vas-y, c'est vachement bien. Et du coup, j'ai fait cette image en étant persuadé au début qu'il l'avait décrite. Et effectivement, ça collait à son état d'esprit à lui quand il écrivait et qu'il faisait le rapport entre ce monde parallèle qui, au nôtre, même le rapport du révérend Kirk que j'ai donné, où j'ai emmené un petit peu Karine à faire sa gravure sur le fameux révérend, mais même l'histoire du révérend dans le livre qui a été écrit, donc le titre étant très long, le livre du révérend Kirk, qui est même très dur à trouver, mais qu'on a trouvé, puisque Pierre m'a dit il faut que tu le lises. Et effectivement, je raconterai mal l'histoire, mais le révérend est parti en féerie. On dit toujours que le révérend n'est jamais revenu, il est resté en féerie. Et en fait, ça va très loin, puisque normalement, après sa disparition ou son décès, il le savait que ça devait arriver, et je crois que c'était... Il disait qu'il devait apparaître à table, donc déjà fantôme, il y avait une notion de fantôme par rapport à la féerie, et qu'il fallait faire un acte pour qu'il soit libéré, et que finalement, il décède et qu'il repose en paix. Et le fantôme du révérend est apparu. L'acte n'a pas été fait, donc le révérend est resté fantôme, resté en féerie, et n'est jamais retourné reposer en paix.
Mais Pierre Dubois le dit, que les fées et les fantômes, en fait, ont cette chose en commun, que les fées peuvent être aussi terribles.
Oui.
Et c'est en ça qu'il disait que les fées et les fantômes se ressemblent. On veut toujours imaginer les fées comme un être doux, élégant, venant en aide, comme des bonnes marraines, alors que pas du tout. Les fées peuvent être terribles, terrifiantes, peuvent venir hanter le monde des vivants, et c'est en ça, en fait, qu'il y a un lien avec les fantômes également.
Alors justement, est-ce que tous les personnages qui sont décrits à travers ces histoires dans l'encyclopédie, ce sont des personnages de la littérature, parce qu'il y en avait que moi que je ne connaissais pas, je suis pas très fort en fantômes, hein, il faut dire la vérité, il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas, est-ce que c'est vraiment des grandes légendes urbaines, j'allais dire?
Alors, c'est pas des légendes urbaines en soi, c'est surtout que Pierre est un... De par sa passion pour Seignolles et qu'il est devenu ami, dont tu nous as raconté la qualité de Seignolles envers son travail de collectage, Pierre est devenu vraiment aussi un collecteur d'histoires. Et Pierre m'a dit, je lui ai posé la question, est-ce que toute l'histoire de fantôme, parce qu'il a la capacité d'en créer, parce que le conte de Noël, c'est clair que c'est lui qui a créé pour aboutir à Noël, qui effectivement, Noël, dans les pays anglo-saxons, c'est la partie du moment où on raconte les fantômes devant la cheminée, pour la veillée de Noël. Et Pierre m'a dit, si, c'est tout des histoires que j'ai collectées. Héloïse est une histoire qu'il connaît, donc Héloïse de... Je ne dirai pas le nom, parce qu'il va se moquer de moi s'il m'écoute. Le nom d'Héloïse, il a changé les noms de l'histoire, mais le château existe. Apparemment, le fantôme aurait changé, ce qu'il nous a raconté. Effectivement, les gens auraient racheté. Il y a encore des gens, ils seraient repassés récemment. Le fantôme aurait changé. Enfin, les actes, les bruits, son apparition aurait changé, mais... Les histoires existent, ont été racontées. Pierre a lu eu déjà une expérience fantôme, nous a-t-il dit.
Il faut que je rencontre Pierre parce que je rêve d'avoir une expérience aussi fantôme. Ah oui, ah oui.
Ça peut mal se passer.
Je voulais simplement revenir sur l'un des portraits qui illustre l'ouvrage et que je vois derrière moi. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Julie Desply dans son film La Comtesse Bathory. Est-ce que, comme ça, il y a des... tu as travaillé...
On travaille vachement au feeling avec Karine, c'est ça qui est impressionnant.
Non,
c'est...
Ouais, on était partis sur les macarons.
Les macarons des cheveux.
C'est un truc qui nous a traumatisés au départ. Ouais. Les macarons, c'est quoi?
On voulait vraiment travailler Pierre à sa connaissance, son érudition et... à un moment, on aimait bien, c'est vrai qu'on aime l'univers victorien, on aime l'esthétisme victorien qui en véhicule. Et,
la poésie.
Et la poésie, et quelque part, celle-ci, Pierre m'a dit, je crois que c'est Philippe Henry, il m'a dit je l'ai écrite pour toi.
Oui,
je voulais faire une petite fille victorienne et tout, et Pierre, donc, est parti, il m'a décrit les macarons. Et c'est vrai que je suis pas un spécialiste des coupes de cheveux féminines, et le macaron m'a perturbé.
Du coup, tu es spécialiste maintenant.
Donc maintenant, je sais, j'ai fait ma recherche sur les macarons, et l'image j'ai sorti comme ça. La petite fille sur fond de la tapisserie, pour moi, c'était normal, référence à plein de films américains, on voit les enfants qui sortent, je sais, c'est pas les autres, il y en a un autre où l'affiche est comme ça, avec deux petites sœurs qui sortent de la tapisserie. Et voilà, donc les macarons inspirés, et c'est vrai que c'est vraiment, on travaille que soit les dragons, que soit les monstres, que soit les maudits, on a bien évidemment qu'on est nourri par le jeu vidéo, le cinéma, la littérature, pas tant que ça par les autres illustrations, parce que finalement, c'est plus l'image mouvante qu'on retient, qui nous imprime, effectivement, le petit fantôme, on va me dire, oui, il y a un petit peu de Miyazaki, mais évidemment, parce que Miyazaki, c'est la nature pure, c'est les êtres qui se réveillent, c'est les petits fantômes de Miyazaki dans Mononoke qui se réveillent, donc vous pouvez pas faire autrement pour exprimer un fantôme qui n'avait aucune religion, était complètement au début des âges, donc elle devait être brute, elle devait venir de la nature, et Miyazaki s'imposait. Mais voilà, c'était des influences qui venaient comme ça, plus cinématographiques en fait.
Tu dis que il y a pas beaucoup. Vous ne vous êtes pas inspiré d'autres illustrations. Mais est-ce qu'il existe des illustrations de ces fantômes? Ce sont des histoires que Pierre Dubois a collectées. Est-ce qu'il existe des illustrations de cette Héloïse?
Les premiers vont risquer Héloïse, qui est dangereux avec Héloïse quand même. Ça reste un des cons.
On fuit pas trop quand on travaille sur un.
Non.
Sachant que c'est vrai.
Moi je suis même pas peur en fait.
Même pas peur.
En exemple, c'est vrai qu'on a, eu la chance, puisqu'on habite en Bretagne, d'aller visiter un manoir. Il y avait un tableau hanté. C'était pour l'anecdote. À la base, on m'y avait emmené parce que je suis un raide dingue d'un grand monsieur qui s'appelle Hugo Pratt. Et on m'avait dit, bah écoute, Hugo, ce cher Pratt a fait une dédicace sur un mur dans un manoir en Bretagne. Je dis, ouais, tu peux la voir, parce que la dédicace, on ne peut plus l'enlever, elle est collée au mur.
Sur le mur, directement, ouais, près de la cheminée.
Mais on m'a dit, tu vois, il y a une autre surprise. Donc je dis, d'accord, on va au manoir du Tertre, parce que c'était là où elle était. Donc je vois effectivement, elle me dit, donc je regarde, je reste devant, bien évidemment, comme d'habitude devant Pratt, il y a toujours un certain temps entre moi et lui pour regarder ce qu'il a fait. Et il vient voir dans notre pièce, puis là, ils m'ont dit, voilà, là au fond, c'est un tableau hanté. Et moi, comme un couillon, donc il y avait, c'est pas beau.
pas grave.
Pas de gros mots.
Et voilà, pas de gros mots. Il y avait effectivement Karine, un responsable du centre arthurien, propriétaire du manoir. Et il y avait 15 autres devant la toile, c'était moi j'avais pratiquement le visage collé sur la toile, et à un moment je me suis retourné, ils étaient tous à 10 km derrière, ils s'étaient pas branchés, t'as moi-même pas peur, je suis allé voir, je voulais voir un tableau hanté, quoi ça ressemble. Effectivement, pour la petite histoire, c'est un tableau qui a, j'en ai reparlé avec un ami, effectivement la technique de la peinture qui vous suit des yeux, on a l'impression qu'elle vous regarde, mais bon, ce petit tableau, il y a quand même des histoires sur ce manoir qui sont rigolos, parce qu'on dit que... Sur le testament, apparemment, la charmante dame qui était, c'est un peu sulfureux, je crois, des histoires assez bizarres sur la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle, je veux pas savoir. Et effectivement, le tableau ne doit pas être décroché de cet emplacement, puisqu'elle était une ancienne, mais c'était une médium.
C'est sur l'acte de Vente.
Voilà, sur l'acte de Vente, il doit rester là. Et apparemment, moi j'ai fait des recherches pour rigoler après sur Internet, et on dit que Elle vient toujours chercher le nouveau propriétaire. Il s'est toujours passé un acte qui fait qu'on acquiert.
C'est elle qui vient y chercher de gros navernes. Moi, j'avais un peu peur.
Moi, je ne pas maintenant.
Il y a un truc qui fasse que de fil en aiguille, on soit obligé de racheter le propriétaire.
Moi, je sais, j'ai entendu parler de cette histoire.
Ah bon?
Mon mari voulait m'y emmener. J'ai dit, bah, écoute, pas pour le moment.
Marie, elle ne veut pas y dormir. Hein.
Parce que c'est le même jour où on rentrait et on avait des petits cailloux qui tomber sur le pare-brise de la voiture.
Sur la voie express en Bretagne, il y a des grandes voies express qui sont assez tranquilles parce qu'il n'y avait personne sur la route. Et pendant bien une heure, on a des petits cailloux qui se jetaient sur la vitre. Enfin, on ne les voyait pas, on n'est pas roulé dans la boue.
Ouais, mais de l'autre côté, c'est bien connu que la Bretagne, c'est un pays de légendes, de fantômes. Brocéliande, c'est bien en Bretagne.
Oui, c'était en Brocéliande.
Donc c'est bien connu.
Oui.
On n'avait jamais eu d'expérience, mais on
a eu une petite expérience.
Alors l'encyclopédie, pour revenir à l'encyclopédie quand même, l'épouvantable encyclopédie des fantômes, à travers, entre plutôt ses portraits de couleur et beaucoup d'illustrations en noir et blanc. Alors pour nos auditeurs qui sont chez eux, moi ça m'a beaucoup fait penser à ces vieilles séries italiennes animées, Inspecteur du Flair, pas c'était que lui, mais Topsy, le roi Arthur, à ces vieilles vraiment séries animées italiennes, parce qu'on oublie, l'Italie a été aussi grand producteur de séries italiennes. Est-ce que par exemple vous vous êtes inspiré de ces vieilles séries? De ces grands personnages, dans beaucoup de séries italiennes, il y a ces grands personnages tout minces, tout beaux, plein de couleurs de tous les côtés. Alors il n'y a pas la couleur dans ces illustrations, c'est en noir et blanc, mais ça m'a vraiment fait vraiment beaucoup penser à ça.
Non, celle-ci pas spécialement, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les images anciennes, j'aime l'affectif des personnages plus stylisés, pas forcément réalistes, avec des grands bras peut-être tout minces, et les émotions du coup qu'on peut faire passer avec des personnages comme ça. On peut créer des situations insolites qu'on peut des fois moins dans ces images colorées, qui se rapprochent peut-être des fois du film en fait. Mais ces noms-là, non, je m'étais pas replongée dedans, mais je vais re-regarder. Mais c'est vrai qu'autrement, Chasse à Dames, on aime beaucoup. Édouard Goret aussi, la poésie et le travail du trait, j'aime beaucoup. Tim Burton aussi, bien sûr, qui s'est inspiré de ces personnages-là. Mais oui, autrement, plus avant, les stylisations de dessins animés.
Il y a un petit côté vintage.
Oui, voilà. Beaucoup.
Est-ce que quand on travaille sur les fantômes, en tout cas, sur une comme ça, en tout cas, c'est un peu obligé de faire des dessins un peu vintage? Est-ce que c'était aussi, en tout cas pour toi, dans ta manière d'illustrer, c'était aussi comment t'expliquer, quelque chose que tu voulais absolument mettre en rapport?
Oui, je pense que j'ai un petit peu ce côté en moi, mais dans ce livre-là, en plus, oui, je me suis dit, pour amener la poésie de ces fantômes et des scènes un petit peu étranges, comme de louer une maison fantômée en mettant Peter qui accroche directement la clé, donc à qui voudra bien la louer ou bien juste prendre la clé, je pense que c'est ce que je me suis dit, oui.
Alors, ce qui est très curieux, c'est quand on feuillette donc l'ouvrage, il y a d'un côté ces portraits, ces grands portraits couleurs et tout, et ces illustrations, et quand on voit les deux, d'un côté ces portraits sont un peu plus dramatiques, et de l'autre côté ces illustrations, on a vraiment envie d'aller prendre le thé avec eux, ces fantômes. On a vraiment envie d'y aller et de les saluer, ils font pas très peur.
Non, oui, c'est les moments intermédiaires, en fait, dans les histoires, dans les vraies ghost stories, dans les anecdotes, dans les petits contes, en fait, qu'a écrit Pierre. C'est pour passer, en fait, souffler un petit peu et peut-être en avoir un peu moins peur.
Est-ce que c'est pour les réhabiliter, ces fantômes?
Peut-être pour moi, parce que moi j'en ai peur. J'ai peur des monstres aussi, et du coup c'était peut-être automatique.
Non, mais je crois qu'enfin, c'est vrai qu'en plus, moi depuis tout petit, je me rends compte, c'est vrai qu'à un moment, on m'a emmené en disant que je pouvais être illustrateur de fantasy et de parler dragon, et je n'étais pas tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai compris qu'effectivement, j'étais plus un illustrateur de fantastique, c'est ce qui m'intéresse. Et depuis tout petit, oui, j'ai vu des films d'horreur. J'avais un copain qui avait Canal Plus, donc la chance d'enregistrer tous les films d'horreur sur le canal. J'étais tout le temps chez lui. Effectivement, je disais Mad Movies. Je feuilletais mon Mad Movies avec tous ces films que je pourrais jamais voir, à tel point que je commence qu'à les voir maintenant. Et effectivement, non, moi, je n'ai même pas peur. Et je pense qu'ils sont jamais forcément méchants. Ils ne sont méchants. Mais c'est un peu ma même vision que j'ai sur le côté fantastique de ce qu'on développe sur le Black Mark Chronicles. C'est que c'est pas forcément les créatures de l'étrange, on va dire, qu'elles soient fantastiques, qu'elles soient fantomatiques ou chimériques, dont il faut avoir peur. Enfin, c'est un peu ma vision, mais peut-être plutôt finalement de nous, pauvres êtres humains, qu'il faudrait peut-être avoir plus peur que d'eux, en fait. Et comme toute créature qui est différente de nous, on a tout de suite peur, donc on la catalogue comme méchante et je pense que peut-être qu'intentionnellement on a eu envie de leur donner une belle image en fait. Même là on va plonger dans les revenants, les spectres, on va aller beaucoup plus loin dans la crypte comme le dit Pierre, mais je pense pas qu'on va aller sur quelque chose de... Enfin, en tous les cas, on saura trouver ce qu'il y a de beau dans quelque chose qui peut sembler agressif en fait.
Tu as parlé plusieurs fois de dragons, de ton autre travail, de dragons. Est-ce que, je parle maintenant à l'auteur, Eliane, y a-t-il des ressemblances entre les dragons et les fantômes? Est-ce qu'il y a des points communs ou des passerelles?
Effectivement, sur les dragons, on va dire oui, de par l'ouvrage qu'on a fait avec Karine, hein, parce que de toute façon, c'est seul, j'aurais jamais écrit les choses, j'aurais jamais vu les choses comme ça, c'est qu'effectivement, je me rends compte après, à la fin de cet ouvrage qu'on a scénarisé en amont, que Blackmore poursuit sa chimère, en fait, et finalement, l'esprit d'un seul et même dragon, parce que j'ai un autre scénario que je vais développer derrière, effectivement, qui est arrivé avec les maudits, mais oui, quelque part, je pense, tout le monde me le dit, les lecteurs qui le lisent me disent, c'est marrant, on sait jamais si on est entre rêve ou réalité quand on lit ton carnet. Et effectivement, j'ai pas envie qu'on soit dans la réalité, on ne sait jamais vraiment s'il a vu ou pas vu les créatures fantastiques, dragons, loups-garous et autres éléments. Au fond de moi, je sais qu'il en a vu qu'une apparition sur notre monde à nous, parce que j'ai une vision un petit peu plus large du scénario qu'on veut développer, et du coup peut-être que oui, effectivement, les dragons qu'il a vus sont, enfin surtout le mois de Tarva est un dragon, l'esprit d'un grand dragon, mais peut-être oui.
Et est-ce qu'avec l'encyclopédie, là je pose la question à deux, est-ce qu'avec l'épouvantable encyclopédie des fantômes tiré d'histoire collectée, on est plutôt entre quoi, entre rêve et réalité, ou entre réalité et rêve?
Réalité et rêve, puisqu'on parle de la réalité du collectage et on rêve à voir quelque chose qu'on n'a jamais vu.
Oui, plutôt réalité et rêve.
Est-ce qu'à travers votre travail sur l'ouvrage, est-ce que vous avez appris des choses sur les fantômes?
Ah oui, beaucoup.
Avec une personne comme Pierre Dubois, oui, c'est obligé qu'on apprenne. On peut pas en ressortir neutre, c'est impossible.
À chaque rencontre, on apprend quelque chose.
Ouais, que ce soit dans l'écriture ou dans sa rencontre avec lui, enfin, quand on le voit, mais oui, on a appris beaucoup, on s'est émerveillé. On le recevait en manuscrit, pièce après pièce, et on a appris peut-être à avoir moins peur des fantômes. C'est ce que je me dis dans ce livre.
Ah, ça c'est beau, avoir moins peur. Et d'ailleurs, j'invite vraiment tous nos éditeurs à venir te voir, Diane, à Art Ludique, découvrir le travail et avoir moins peur. Comment tu as sélectionné les œuvres présentées?
En fait, on a travaillé, j'ai travaillé avec Karine et Lian, quand ils m'ont fait parvenir toutes les images sur lesquelles il avait travaillé sur les fantômes, on a presque mis quasiment toutes les illustrations originales, on a pris cette décision-là. S'il y en a d'autres, c'est parce que c'est plus une question de place en termes de galerie. Et ensuite, sur les œuvres numériques, effectivement, il y a une sélection qu'on a fait ensemble, sur quels seraient les fantômes un petit peu les plus intéressants artistiquement parlant, créativement parlant, qui changeaient un petit peu aussi. Mais c'est vraiment un travail de groupe, de studio, d'équipe, comme ce qu'ils ont fait sur le livre en fait.
Est-ce que tu as préféré mettre les illustrations les plus, tu viens de le dire, un peu artistiquement les plus parlantes, ou les fantômes les plus renommés?
Renommée, je sais pas, parce que moi...
Y a-t-il une renommée chez les fantômes?
Voilà, moi, quand j'ai lu le livre, je ne connaissais pas du tout les histoires. Donc, en fait, je suis partie du principe que c'était ceux qui m'attiraient le plus artistiquement et créativement parlant. Ça, c'est vraiment l'œil, on va dire, de la galeriste qui s'est dit « Ah, oh, celui-là, j'ai envie de le mettre », alors que j'imagine il y a des gens qui vont peut-être préférer autre chose. Mmh. Mais moi, c'était vraiment ma vision, quand ensuite j'en ai parlé avec Elian et Karine, qui aussi avaient à peu près la même vision, donc on a fait comme ça en fait. Qu'est-ce que nous, on avait envie de montrer, qu'est-ce qu'on avait envie d'exposer, qu'est-ce qui représentait aussi au mieux le travail, l'univers de cette encyclopédie, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est cette sélection-là qu'on a faite, voilà.
Et est-ce qu'à travers, je poserai la même question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'à travers cette exposition, ce travail, tu as appris des choses sur les fantômes ?
Ah, moi j'ai appris énormément de choses. Moi, je connaissais aucune des histoires du livre. J'avais découvert des fantômes via la littérature, le cinéma, et j'ai tout appris enfin sur les différents fantômes, les esprits, les revenants, les ceux qui sont plus sympathiques à d'autres, ceux qu'on arrive avec lesquels on arrive à vivre et d'autres pas. Enfin, non, vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel.
Est-ce qu'il y a des illustrations encore inédites ? Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu l'as fait comme tu le ressentais, le bouquin. Est-ce qu'il y a des illustrations que vous avez réalisées tous les deux, mais que vous n'avez pas pu mettre dans le bouquin parce qu'elles étaient peut-être trop horribles ou trop affreuses ou trop je ne sais trop ?
Est-ce qu'il sait ? On ne les a pas poussées au final comme celles qui sont dans la galerie, mais ça va être d'autres idées, on les a esquissées en fait. Et après, en discutant, on a choisi tel ou tel. Par exemple, carnet qui est dans la vitrine, il y a un personnage allongé avec des cheveux qui court sur on voit peut-être pas que c'est un tapis, mais c'est un tapis persan. C'est vraiment un croquis d'idées, le premier croquis qu'on échange comme ça. Et celui-ci, du coup, on l'a pas dessiné. Donc il y a quelques dessins comme ça qui sont en état d'ébauche en fait. Et peut-être qu'on aura envie de mettre.
Un volume 2. Il arrive l'année prochaine, parce qu'en fait, Pierre, quand on a signé avec Léna, donc ce livre ne devait faire que 150 pages, mais Pierre nous a vraiment pris au pied. Il a écrit 150 pages, lui, manuscrit.
155 de manuscrit.
Et à la main, je voyais comment ça allait, et je lui disais, mais on pourra pas tout aborder, parce que là il avait abordé que le fantôme. Pierre a catégorisé, fait trois catégories dans ce travail là c'était fantôme, revenant et spectre. Donc on descend de plus en plus dans la crypte, là où ça fait peur, là où effectivement il se passait des choses dramatiques pour être revenant ou spectre. Et effectivement, quand j'ai vu où vous allez, j'ai appelé notre éditeur, donc Benoît Cousin, et je lui ai dit, Benoît, le problème, c'est que c'est génial, mais on va faire une Bible. Et donc Benoît a dit, oui, effectivement, je pense que là, donc Glénat a dit, bien évidemment, on segmente. Donc j'ai dit à Pierre de tourner aussi son écrit, parce que Pierre, quand il est parti, c'est un peu comme nous quand on dessine, il part. Il est parti en forêt et il faut l'arrêter. Donc du coup, je lui ai dit, il a dit pas de problème. C'est pour ça qu'à la fin, il a mis la suite en revenant. Donc là, on est en train déjà de travailler sur la suite qui sortira en 2013 sur les revenants et les spectres. Et sera certainement l'effroyable encyclopédie.
Ah, j'attends ça avec impatience. La suite. Est-ce que là, tu disais que les revenants et les spectres, vous descendiez de plus en plus dans la crypte.
Oui.
Est-ce que votre travail va aussi évoluer de plus en plus vers autre chose ? Est-ce que ça va être plus sombre ? Parce que là, c'est quand même assez rigolo, on aime bien ces fantômes quand même. Hein. Est-ce que ce travail, au fur et à mesure qu'on descend dans cette crypte, va être plus sombre ?
Je ne sais pas, par moment je me dis oui, par moment je me dis non. On va se laisser porter par les textes, de toute façon, c'est comme ça qu'on le fait, et puis notre état d'esprit du moment aussi. Mais ça dépend en fait des jours.
Je ne sais pas, parce que effectivement, moi, pour moi, les tableaux que je fais, que je représente, sont même pas peur. Et effectivement, les gens me disent que j'aime la petite partie un peu plus sombre, peut-être parce que j'aime bien travailler la lumière, l'éclair-obscur et ce qui se cache dans l'ombre, qui peut faire peur ou pas peur. Et quand on est petit, on a toujours peur ce qu'il y a dans le placard ou sous le lit. Et moi, du coup, j'aime bien ça, mais pas pour faire peur. Donc Non, c'est les mots de Pierre qui vont nous guider.
Je pense qu'il y aura une partie où on ne pourra pas s'empêcher, on va descendre un petit peu plus profond. Mais je pense qu'on gardera.
Mais puis un peu dans la pénombre, moi j'y crois.
Contrepoids.
Alors je rappelle à tous nos auditeurs que l'exposition, depuis le 11 décembre et jusqu'au 29 décembre, Art ludique. Merci beaucoup, Diane,
Merci. De
nous avoir accueillis une fois de plus. Avant de nous quitter, bientôt c'est la fin d'année déjà.
Oui.
Qu'est-ce que tu nous réserves pour l'année prochaine?
Ah, je réserve.
Je suis curieux.
Une rentrée sous le signe du Grand-Duc, des avions et des pin-ups avec Romain Hugo, qui va nous emmener un petit peu sur ces avions dans le ciel de la BD.
Bon, tu vois la tente là-bas, c'est la mienne là-bas. Je me suis déjà mis là-bas. Vraiment, je rappelle aussi à tous nos éditeurs que l'épouvantable encyclopédie des fantômes est sortie chez Glénat. Et vraiment, je conseille à tous nos auditeurs de l'acheter parce que c'est un superbe ouvrage. Bientôt les fêtes. Si vous avez autour de vous des gens qui sont passionnés de fantômes, c'est le livre à offrir. C'est l'encyclopédie, c'est le fantôme. Le fantôme.
Merci, merci.
Avant de nous quitter, quand même une dernière question. Quel serait votre fantôme préféré?
Wow.
Toi aussi, Diane, ne rigole pas. Toi aussi, Diane.
Moi tout de suite, moi c'est la petite fille en gris.
Mais le fantôme de l'exposition.
Je choisis ce qu'on connaît plus, hein, voilà.
Bah, bien sûr, l'exposition ou hors de l'exposition.
Moi qui n'ai même pas peur et qui adore les films fantastiques, les films d'horreur, finalement je dirais Casper en fait. Quoi, c'est mon favori. Je suis désolé. C'est vrai.
Ça reste dans le thème.
Oui, Casper.
Ah, gentil fantôme.
Exactement.
Diane.
Faut que ça fasse partie de la.
Non.
Alors moi le film, mais ça ils le savent. Pour moi mon fantôme préféré c'était le film de Mankiewicz, le fantôme de Madame Mir. Voilà.
Qui est génial.
Qui est un fantôme extraordinaire.
C'est Diane qui le fait découvrir.
Il réapprend à une femme à vivre l'amour et qui est assez formidable.
Bon, j'invite tous nos éditeurs à découvrir les différents fantômes de nos invités au cinéma, à la galerie, à travers l'épouvantable encyclopédie des fantômes chez Glénat. Vraiment, je les invite tous à les découvrir. Merci à vous trois.
Merci à toi.
Nous,
merci.
On va se quitter pour cette année. En tout cas, les buts dans la tête reviendra dès janvier. Dès janvier,
2013.
Oui, 2013. Si on y arrive.
Oui. Voilà.
Si on y arrive. Parce que certaines.
Les fantômes vont nous aider.
Selon certaines rumeurs, la fin du monde, je crois que c'est le 21 décembre. Certaines rumeurs.
Peut-être tous fantômes, finalement.
On se donne rendez-vous l'année prochaine
avec
pour le volume 2. Tu marques ça. Hein,
bien sûr, avec plaisir.
Merci à vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes fêtes.
Et joyeux Noël.
Ouais, de fin d'année. Joyeux Noël. Et restez fidèles à Annie Musique. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.